Alors je vous encourage à retrouver le livre de la Genèse, au chapitre 1. On va commencer par lire le verset 26 et 28, pour faire un rappel. Alors, Genèse 1, c'est facile, c'est au début. Autrement, il suffit d'écouter, c'est le préféré. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, ou il créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Ensuite, on va avancer, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Un petit peu plus loin, verset 18 de ce même chapitre, Genèse. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Alors, la dernière fois, nous étions arrêté au verset 23, en laissant de côté ce verset 24 qui va nous occuper ce matin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, ici on est devant un des versets importants de la Bible. Pourquoi ? Ben parce qu'on le retrouve, ce verset, à 5 reprises dans la parole de Dieu. Il est dans le top 10, il est dans le top des, je peux dire, des 3 premiers même, ex aequo avec d'autres, qui sont répétés également 5 fois. Alors, les deux ex aequo qui sont le plus cités, c'est le commandement de Dieu qu'on trouve dans Exode, « Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. » Et un autre qui est répété également 7 fois: tu ne commettras pas d'adultère. Et celui-ci donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, dans ce best-seller, là, vous avez remarqué, ils ont tous un lien commun. C'est qu'ils parlent tous... ils concernent tous la famille, ils concernent tous la vie familiale. C'est vrai qu'on cite souvent Jean 3,16, l'homme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, comme étant des versets clés de la Bible. Mais pour notre vie de tous les jours, je crois que Dieu a choisi quelques versets dont nous avions besoin de retrouver à plusieurs reprises dans sa parole. Et cela, concerne la vie familiale en font partie. Donc, un verset important. Un verset important également parce que c'est dans un des premiers versets où l'on voit une cause à effet. C'est pourquoi. Donc, qui fait un lien avec le verset d'avant, qui va nous pousser à la réflexion. Jusqu'à là, nous avions un texte narratif et il suffisait de lire. C'est vrai que à la verset 17, on avait le commandement, l'interdiction, par rapport à la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec le fameux « si » qui déjà poussait à la réflexion. Mais là, nous avons un terme « si pourquoi ». Et un verset important également, pour une dernière raison, au moins, c'est qu'il était pour la première fois mention du Père et de la Mère. Donc un verset qui va, parle, ou qui ramène, qui renvoie à la famille. Alors qu'est-ce qui se dégage de ce verset? Ben là on voit facilement l'illustration du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Hein, c'est généralement comme ça que les mariages se passent. On a un jeune homme, une jeune fille qui décide de mettre leur vie en commun. Et puis ils vont partager ce qu'ils ont, ils vont partager leurs peines, ils vont partager leurs joies, ils vont partager leurs souffrances. Ils vont partager leur maison, ils vont partager leur repas, ils vont partager leur lit, ils vont partager leur corps. Ils vont faire comme une seule personne. Donc, ça nous parle du mariage, ça nous parle de la famille. Il y a quelque chose d'intéressant également. Vous avez remarqué, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, la présentation qui nous est faite ici, socialement parlant, ce n'est pas une organisation patriarcale où on aurait l'homme qui serait le chef de toute sa famille, parce que on le voit ici. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, le papa va voir son enfant, à un moment donné, partir, quitter sa maison parce qu'il est attiré par une personne qui va devenir sa femme. On en touchera un mot plus tard. Ce n'est pas également un modèle matriarcal. Oui, donc vous avez vu, il quitte et il s'attache à sa femme. Donc il quitte sa maison pour aller vers sa femme. Et ce n'est pas non plus un fonctionnement matriarcal, comme si c'était l'homme qui venait dans la maison de la femme et que la femme serait à ce moment-là le chef. Non, ce n'est pas non plus ça qui est présenté, parce qu'on voit bien, on l'a lu, il y a d'abord eu la création de l'homme, et après il y a eu la création de la femme. Et la femme est présentée comme étant créée pour répondre à un besoin de l'homme. Par rapport, juste pour faire un petit rappel, par rapport à ce que nous avions vu jusqu'à présent, à ce point, c'est peut-être... Je ne l'ai pas fait au début, je vais le faire maintenant. Donc on a vu dans notre texte l'homme et la femme créés d'une façon différente. On a vu l'homme qui était créé pour cultiver, pour garder un jardin. On a parlé de ça, c'est un travail d'administration. Il était en quelque sorte le représentant de Dieu auprès des animaux, auprès de la création. On le voit en train de donner des noms à tous les animaux. Et le nom que portent les animaux et le nom que va donner l'homme. On voit ce travail, cette responsabilité, cette sorte de responsabilité que l'homme a sur la création, également par rapport au jardin dont il avait la responsabilité de cultiver, de garder. On voit également, on a lu dans notre texte que la femme a été créée pour aider, pour tenir compagnie à l'homme, pas qu'il s'ennuie, hein, pour qu'il arrive mieux à s'en sortir dans son travail, dans ses activités, que les deux étaient différents, créés pour des raisons différentes, et que les deux portaient l'image de Dieu. Et donc, on voit à travers ce verset qu'il ne s'agit ni d'une quelque chose de patriarcal, ni matriarcal, mais l'homme, le jeune homme et la jeune femme, vont fonder quelque chose de nouveau, une nouvelle famille, et qui va en quelque sorte être une nouvelle entité. Je vous ai dit que ce verset avait été cité 5 fois dans la Bible, alors on va regarder ensemble maintenant où est-ce qu'il a été cité et qui les a cités. Alors, si vous connaissez un petit peu les évangiles, vous avez sans doute remarqué que c'est Jésus lui-même qui a cité ces versets à 2 reprises, on les trouve dans nos textes, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, on va lire des versets 3 à 6, je ne sais pas si quelqu'un a envie de lire, Matthieu 19, 3 à 6, le Seigneur Jésus étant, il y a une grande autorité, on va l'écouter et on va mieux comprendre certainement ce qu'il y a derrière ce verset à travers les paroles et l'enseignement de Jésus. Alors, qui c'est qui a trouvé Matthieu au chapitre 19? Tu as trouvé, Jean?
Les pharisiens abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, qu'est-ce qu'il se dégage comme enseignement là, à travers ce petit passage, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, vous avez lu, comme n'avez-vous pas lu, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est Dieu, ici, on apprend, le Créateur. On sait que le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, a participé, était acteur dans la création de Dieu. Et donc, il est tout à fait bien placé pour dire, il dit, le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cette phrase est... vient de la bouche même de Dieu. On trouve également un autre enseignement qui confirme ce qu'on avait pu comprendre dans notre verset en première lecture dans Genèse, que l'homme et la femme s'unissent pour faire un. Alors, 1 + 1 = 1, c'est ce qui est souligné ici par le Seigneur Jésus. Puisqu'il ajoute, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, et donc là on apprend également que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme pour en faire une seule personne. Voilà ce que l'on peut retenir, ce que j'ai retenu pour nous ce matin. Il y a d'autres choses bien sûr qu'on pourrait voir. Si nous tournons quelques pages, nous allons retrouver l'autre passage qui est cité dans la Bible par rapport à ce verset, Marc 10, versets 2 à 9. Qui est-ce qui a envie de lire Marc 10, versets 2 à 9? On a un lecteur. Oui, si tu veux, Alain. Marc 10, versets 2 à 9.
Dans la version d'Instagram. Verset 2. Alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour les trouver. Et dit parmi un homme de répudier sa femme. Il répondit et leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Ils lui dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus répondant leur dit, il vous a écrit cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint.
Voilà, donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu à l'autre verset, hein, à l'autre passage, avec quelques informations de plus. C'est que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se sépare. Dans sa pensée, le divorce n'était pas dans la pensée de Dieu. Au commencement de la création, hein, c'est à cause de votre dureté que Moïse vous a prescrit le précepte, la possibilité donc de faire un divorce. Mais au commencement, Dieu fit l'homme et la femme, etc. Le divorce n'est pas dans la pensée initiale de Dieu. C'est pas dans son plan au moment où il crée l'homme et la femme. D'autres informations, on va les trouver sous la plume de l'apôtre Paul quand il écrit aux Corinthiens. Là, il y a un long passage à lire. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 20. Je vais le lire pour vous. Donc, les paroles de l'apôtre Paul ont autorité, elles ont été écrites après que le Seigneur Jésus-Christ soit monté dans le ciel. Et on avait, quand on avait étudié un petit peu ensemble l'autorité de la parole de Dieu, on avait vu que l'apôtre Paul avait tiré son enseignement de Jésus-Christ lui-même. Alors, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, 1 Corinthiens 6, verset 9. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ce passage, vous avez vu, hein, il ne s'agit pas d'aller à droite à gauche pour l'homme, un homme pour une femme pour un homme, voilà, on peut conclure de cela. On peut conclure également que notre corps a de la valeur, on n'en fait pas n'importe quoi avec, notre corps est une création de Dieu, et comme toute création de Dieu, elles sont faites pour lui rendre gloire. Donc, quelle que soit l'estime qu'on peut avoir par rapport à son propre corps, il faut savoir qu'il a une grande valeur pour Dieu, et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec. Le dernier passage, on le trouve en Éphésiens, au chapitre 5, on tourne encore les pages. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit à une autre église, à plusieurs églises, donc l'église, la lettre aux Éphésiens, à tout ce qui ressemble à une lettre circulaire envoyée à une multitude d'églises, et donc à nous, aujourd'hui. Qui est-ce qui a envie de lire Éphésiens 5, du verset 25 au 33e verset? Pour moi, c'est jusqu'à la fin de la page. Qu'est-ce qui a envie de lire ça? Tu veux lire, Jackie? Marie-Christine, tu l'as?
Oui.
Oui, d'abord, on t'écoute.
Donc, de 25
à 33, Éphésiens 5.
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Voilà. Alors, ça paraît quelque chose d'évident, mais encore, fallait-il, c'est écrit. Ben, le mariage, c'est une affaire, une histoire d'amour. L'amour est au centre du mariage et au centre de l'union entre le jeune homme et la jeune femme, ou l'homme et la femme d'une façon générale, parce qu'on peut se marier à tout âge. C'est une histoire d'amour qui se passe entre ces deux personnes-là. L'homme aime sa femme et la femme, il est écrit, respecte son mari. L'homme aime sa femme comme lui-même. C'est le minimum syndical que l'apôtre Paul nous donne là, au verset 33. Dans le mariage, il y a de l'amour. Dans l'union du jeune homme avec la jeune femme, il y a de l'amour. On a également une autre information ici, c'est que le mariage est l'image, on a une image de ce que Dieu a prévu pour Christ et pour son Église. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit quoi par rapport à Christ et à l'Église? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'Église est présentée comme l'épouse de Christ à travers les Écritures. Et donc, quand nous qui sommes chrétiens, nous avons bien capté cela, ça permet d'y voir plus clair. Et ça permet d'être de bonne base pour nous diriger par rapport à notre vie conjugale. Hein. C'est quelque chose qu'il faut saisir, parce que ce verset, l'apôtre il dit « ce mystère est grand ». Bon, mystère, c'est dans le grec là, c'est quelque chose qui est révélé, hein, qui n'était pas révélé avant et qui est révélé maintenant. Et c'est une grande chose que de comprendre cela. Voilà un dernier enseignement que j'ai noté pour nous par rapport à la façon dont on peut comprendre ce verset et comment l'Écriture en parle. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, quelles applications pour nous dans notre vie aujourd'hui? C'est ça qui est finalement important une fois qu'on a réfléchi, qu'on a vu ce lien de cause à effet, etc. Je n'ai pas parlé de la cause à effet, je vois que je l'ai zappé dans mon discours, c'est pourquoi. Donc on a vu le jeune homme qui déclare, enfin Adam qui a déclaré, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et le sait pourquoi, ensuite qui les unit, donc il y a une décision de l'homme au départ, Adam ici, enfin l'homme et la, jeune, l'homme et la femme, hein, c'est mieux qu'ils soient d'accord, et la décision de l'action de Dieu qui les unit ensuite, mais c'est sur une déclaration d'Adam que cela s'est fait. Donc Adam est impliqué dans tout cela. J'avais oublié de le souligner tout à l'heure. Alors les applications pour nous aujourd'hui, eh bien, on le voit et on le comprend, les conduites homosexuelles sont un outrage au Créateur vu de ce point de vue. Hein. L'homme avait créé, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour qu'ils s'unissent, qu'ils fassent une seule chair. Cette union va jusqu'à la plus profonde intimité et il n'a pas du tout prévu que ce soit deux hommes ou que ce soit deux femmes. Et lorsque cela se produit, ah ben c'est un outrage. Comme il y en a eu d'autres, hein, on l'a vu dans la lettre aux Corinthiens, il y a toute une liste, la cupidité, l'idolâtrie. C'est pas que ce soit une conduite plus grave les unes que les autres. L'apôtre n'a pas fait de hiérarchie, mais c'est un problème. On peut également trouver une autre application. J'en ai parlé, Dieu n'a pas envisagé le divorce. Et lorsque un jeune homme et une jeune femme, lorsqu'un homme et une femme décident de s'unir, eh bien, c'est pour que ça dure. C'est pas pour envisager un plan B. Ah ben, si ça marche pas, ben, j'irai chercher ailleurs. Si je vois que c'est pas bon, j'irai chercher ailleurs. Non, c'est pas comme ça que la parole de Dieu présente l'union entre l'homme et la femme. C'est quelque chose. Et avec l'image de Christ et de son Église qui est là, qui est faite pour durer pendant longtemps, 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 la formule consacrée jusqu'à ce que la mort vous sépare, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, et il y a un moment où la séparation a lieu après la mort. Bon, on ne va pas en parler maintenant. Il y a également une autre application pour aujourd'hui, c'est qu'on se garde pur avant et on se garde pur après le mariage. La chasteté convient bien à la façon dont Dieu envisage l'union de l'homme et de la femme. La chasteté pour l'homme et la chasteté pour la femme, pour les deux. Et une fois qu'ils sont unis, eh ben, la pureté continue, c'est-à-dire il y a, ça va dans la même continuité, on se garde de démolir ou de salir ou de souiller cette union que Dieu a créée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Si je suis homosexuel, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si Dieu dit c'est pas bien, c'est qu'il a certainement une solution. Il a certainement une solution. Dieu est plus grand que nos sentiments. Il est appelé le Tout-Puissant. S'il n'avait pas de solution, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Dieu a une solution. Lorsqu'il dit des choses, lorsque ça va pas, ça coince, il a une solution. Maintenant, si je suis adultère, ben on l'a vu, hein, c'est cette fois répété dans le top, le verset le plus cité dans la Bible, c'est « Tu ne commettras pas l'adultère », ben il faut s'arrêter, hein, faut stop, faut s'arrêter, demander pardon et arrêter ça tout de suite. Si je vais voir les prostituées, bah c'est pareil, stop, là aussi, on arrête tout de suite. Si je vis avec une femme, ou si je vis avec, qui n'est pas sans être marié avec elle, avoir une vie maritale, On appelle ça ce qui est très commun dans notre société. Alors, quand on lit les textes, etc., bon, moi je comprends que Dieu voit ces personnes comme étant en quelque sorte mariées, hein. Bon, puisqu'il vit comme deux personnes mariées, pourquoi elles ne seront pas aux yeux de Dieu mariées? Parce qu'elles ne l'ont pas déclaré publiquement. Mais bon, c'est bien de régulariser également la situation devant la société, devant les hommes, hein. Et puis après, il peut y avoir également d'autres personnes. Si je suis, je vais de droite à gauche et je change souvent de partenaire, et je vais avec telle femme, et puis au bout d'un moment on casse, et puis je vais en voir une autre, et puis ça recasse, et puis etc. De passer de personne en personne comme ça, eh bien, notre texte également est clair, stop. Nous étions hier à un mariage, cérémonie de mariage avec Jackie, et c'était des moments très émouvants au début de la cérémonie parce qu'il y avait des lectures qui étaient là, c'était à Vivier hier. Et la dame qui était là, ils avaient choisi le texte 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Et elle a commencé à lire, la dame, et elle a fondu en larmes, elle n'arrivait pas à lire le texte. Alors il y a une autre personne qui est venue l'aider. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Elle était tellement saisie par le texte. La force du texte qu'elle était en train de lire, elle n'est pas arrivée à le lire. Elle pleurait, elle n'est pas arrivée à le lire. Et ensuite, nous avons chanté un chant, Change, qui est une annonce de l'Évangile. Et là aussi, les gens étaient très émus à l'écoute de ce chant. C'est un chant en anglais, mais de plus en plus de personnes connaissent l'anglais maintenant. Qui est ce chant annonce le changement avec la venue de Jésus-Christ. Et après, le prêtre a commencé son homélie, enfin, son texte qu'il avait proposé, enfin, il a parlé aux gens sur le mariage, et il a dit, aujourd'hui, on dit l'expression « faire l'amour » comme on dit aussi « faire les courses ». Non, on ne fait pas l'amour comme on fait les courses. L'amour est quelque chose qui est bien plus grand que cela. C'est bien plus grand que la sexualité. Ça ne se limite pas là. C'est quelque chose de plus grand, de plus noble et de plus beau que cela. Alors, changer sans arrêt de partenaire comme ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut s'arrêter quand on considère la parole de Dieu. Il faut s'arrêter de faire ça. Je pense qu'on a le temps maintenant de voir le verset d'après. On a quelques minutes, on va le terminer comme ça, on aura terminé le chapitre par rapport à la nudité. Ça va quand même avec notre texte et avec notre message d'aujourd'hui. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Alors le mot nu, dans la Bible, on le retrouve à différents endroits, dans l'Ancien Testament, et la plupart du temps, il est utilisé pour désigner le dépouillement. Job disait, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job chapitre 1, verset 21. Ésaïe 58, 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Là, le mot nu, c'est plus, ça exprime plus que ne pas avoir d'habit. C'est le dépouillement, une sorte de vulnérabilité que cela exprime. Et donc, l'homme et la femme, ils étaient tous deux nus dans le jardin d'Éden. Ils n'en avaient pas honte, ils étaient dépouillés. On peut prendre cette image, je pense, du bébé quand il est naissant. la nudité d'un petit bébé, ben, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Quand un bébé naissant, il est nu et il est présenté nu à sa maman et à son papa, bien évidemment. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et c'est cette sens de cette nudité-là dans laquelle étaient l'homme et la femme, Adam et Ève. Donc ça n'a rien à voir avec le naturisme, ceux qui veulent vivre sans avoir d'habit toute la journée, qui vont dans des clubs, etc., ceci, cela, ce n'est pas reproduire l'état dans lequel étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose que l'on ne peut pas reproduire aujourd'hui. C'est pas reproductible. C'est pas reproductible parce que le péché est entré dans le monde, c'est le chapitre qui suit. Il n'empêche que dans le cadre du mariage, on a vu l'attachement de l'homme et de la femme, la pudeur n'a pas sa raison d'être. On vient de le lire, ils deviennent une seule chair. Et chacun de nous connaissons notre corps tel qu'il est, hein, sans qu'il soit couvert par des habits. Et l'homme et la femme mariés, c'est un petit peu, comme ils sont une seule chair, une seule personne, il n'y a pas de problème pour eux par rapport à la nudité qu'ils peuvent avoir quand ils sont ensemble. Voilà ce que je voulais terminer aujourd'hui, ce chapitre 2 du livre de la Genèse. Alors, on va prier maintenant. Seigneur notre Père céleste, merci pour tous les mariages, merci pour le moment de joie que cela représente, Seigneur, et encore hier soir avec Jacqueline, on a pu partager un petit peu la joie de ces familles qui étaient là. Merci pour cette belle chose, Seigneur, qui est porteuse de tellement d'espoir. Merci de ce que tu as fait, comme tu l'as fait. Merci parce que c'est grand, c'est beau, c'est noble. Et Seigneur, aide-nous maintenant à préserver ces choses-là, à bien les comprendre, pour pouvoir bien les comprendre dans notre être intérieur, que nous soyons imbibés de ces choses-là, pour en avoir soin si nous sommes mariés, et pour les respecter également si nous ne sommes pas mariés. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la révélation de qui tu es, de la façon dont tu fais les choses, de la façon dont pourquoi tu les fais. Tu nous expliques des choses qui sont grandes et merveilleuses. On pense à ce que est Jésus-Christ et que c'est son Église. Nous te prions également pour notre monde qui perd un petit peu les pédales et Seigneur qui perd ses références. Nous te prions, Seigneur, de lui apporter ta parole qui donne des bonnes explications et des bons repères pour le bonheur, pas pour le malheur. Tu donnes des instructions pour notre bonheur, pas pour notre malheur. Et tu es toujours prêt à accueillir celui qui revient de sa voix qui n'est pas bonne. Tu es toujours prêt, Seigneur, à renouveler ton pardon. Tu es toujours prêt à recréer ce qui est cassé. Seigneur, tu es le Tout-Puissant et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu peux faire dans les vies de ceux qui nous entourent. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.